RFI, grand reportage, Xavier Besson.
Dans le nord de l'Inde, au cœur de la chaîne de l'Himalaya, la région désertique du Ladakh souffre aussi du réchauffement climatique. Pour la grande majorité de ses 300 000 habitants, l'unique source d'eau est la neige des glaciers, mais celle-ci se fait de plus en plus rare, car ses réserves de glace fondent à grande vitesse dans des montagnes où la température hivernale moyenne a augmenté d'un degré en 35 ans. Pour faire face à cette situation, des villageois et des associations ont construit ces dernières années des dizaines de barrages le long des rivières pour bloquer le flot de l'eau, la faire geler et former ce qu'on appelle des glaciers artificiels, une manière artisanale et peu coûteuse de stocker un liquide très précieux et de retarder sa disparition. Le Ladakh, touché de plein fouet par le réchauffement climatique, c'est le grand reportage de Sébastien Farcy.
Dans mon enfance, nous avions plein de neige ici. Près de l'Aisne, nous marchions dans plus d'un mètre de neige en hiver. À présent, il tombe à peine 30 cm de neige. Pendant l'hiver 2012, nous n'avons même pas eu une seule chute de neige. Et les gens ont souffert de graves manques en eau. Dans ce village d'Igou, avant, on ne pouvait pas cultiver de blé, car cette graine met plus de temps à mûrir que l'orge. Mais maintenant on peut. Depuis 10 ans, cette vallée est devenue toute verte. Cela est sûrement dû à l'élévation des températures.
How high are we?
Nous sommes à 4200 mètres d'altitude.
It's time to get out of vehicle now.
Oh, okay.
We have to walk.
Okay, let's walk then. Allez. On continue en marchant, 4200 mètres. We have to walk now?
Yeah.
La route est cabossée, la voiture va repartir. Nous sommes avec Tundup, qui travaille pour l'ONG Lay Nutrition Project, qui a installé le glacier artificiel qui est au-dessus de cette montagne. À quelle hauteur est le glacier? How far is the glacier from here?
We are now almost at the end of Igou village.
Nous sommes ici à la sortie du village d'Igou. Nous devons marcher pendant 1h30 pour arriver au glacier artificiel. Il est situé à 4800 mètres de hauteur.
Ok, 600 mètres un peu plus en amont du village pour pouvoir fournir de l'eau à tout le village et aux champs.
Ceci est le premier glacier artificiel. C'est ici que cela commence. Si vous venez en décembre, ceci ressemble à une mer de glace. Maintenant, en été, toute l'eau a fondu et s'écoule vers le village.
Ce qu'ils appellent les glaciers artificiels, c'est en fait une série de barrages en pierre qui sont construits en travers de la rivière et cela permet de freiner et de faire geler l'eau au début de l'hiver pour la stocker en hauteur. Ensuite, quand les températures remontent au printemps, cette eau fond et irrigue les champs du village. Cela remplace donc les glaciers de basse altitude qui ont disparu ces dernières années.
And how many walls do you have like that? Combien de...
23. Till up to the end of the valley, we have 23 numbers.
Wow, ok. 23 murs comme ça.
We build in a series.
Nous construisons une série de barrages pour former des réservoirs indépendants. Cette année, par exemple, nous n'avons pas eu beaucoup de soleil, mais les réservoirs situés les plus bas ont quand même fondu très tôt. C'est une technologie qui a plus de 50 ans. Vous pouvez voir cette vieille structure ici. Ce n'est pas nous qui l'avons construite. Nous avons demandé à la population ce que c'était et ils nous ont dit que quand ils avaient d'importants manques en eau, ils construisaient ces barrages pour geler l'eau de la montagne. Nous avons donc repris et étendu ce concept.
Maintenant qu'on est monté à 4700 mètres, on va redescendre et on va aller demander aux villageois qu'est-ce qui a changé vraiment dans leur vie, dans l'agriculture, avec l'installation de ces glaciers artificiels, de ces barrages en 2013. On retrouve maintenant Sona Mudurje, un habitant de 70 ans. Il fait tourner sa roue à prière. Elle nous emmène vers son champ. Un champ magnifique. Un champ vert. Grande propriété. Et au loin, on voit le jaune or des champs de moutarde. Fabuleux.
Depuis plusieurs années, il y a de moins en moins d'eau au printemps, au moment où nous en avons besoin pour planter. Parfois, à cause de cela, nos récoltes n'étaient pas bonnes. Nous avions juste assez pour nourrir les animaux. Cela s'est amélioré grâce à ce barrage. L'eau est stockée et peut arriver à temps. Je peux maintenant cultiver une plus grande étendue de terre qu'avant et nos récoltes sont suffisantes pour nous alimenter pendant les longs mois d'hiver et nous en vendons également une partie à lait.
Dans cette région désertique du Ladakh, 90% des habitants dépendent des glaciers pour obtenir de l'eau. Mais cette source se tarit à une vitesse inquiétante à cause du réchauffement climatique. Une étude coordonnée par le groupe français GERES dans les hauteurs de l'Himalaya a conclu que la température moyenne en hiver était montée d'un degré en à peine 35 ans, une tendance qui s'est accélérée depuis un siècle. Des images satellites ont montré les conséquences sur 466 glaciers de la plus haute chaîne de montagnes du monde. Eh bien, ceux-ci ont perdu 21% de leur masse en 50 ans. Chandra Bhushan est le directeur adjoint du Center for Science and Environment de New Delhi et il est spécialiste du changement climatique. Il explique l'urgence de la situation.
Le Ladakh est en train de vivre le plus important réchauffement hivernal de toute l'Inde. Dans certaines zones ou pendant certains jours, la température a pu augmenter de 4 ou 5 degrés. Cela fait que la glace ne peut pas se créer ou celles qui existent fond rapidement. Cela met clairement en péril l'accès à l'eau de tous les habitants de la région.
Les animaux tels que les yaks, qui représentent une autre source d'alimentation pour les Ladakhis, sont également touchés par ce changement climatique. Poursuit Chandra Bhushan.
Le Ladakh a une importante population nomade qui voyage pour chercher des pâtures pour leurs animaux. Mais à présent, à cause de ce réchauffement, ces herbes se font plus rares et de nouvelles espèces envahissantes qui ne sont pas consommables par les animaux les remplacent.
Il y a quelques années, un village du Ladakh d'une cinquantaine d'habitants a disparu. Sa population a en effet dû migrer car le glacier qui l'alimentait venait de disparaître. Cette précarité de l'agriculture et l'hostilité de ce climat désertique poussent les jeunes générations vers la ville principale du Ladakh, Leh. Sa population a déjà cru de près de 10% en une décennie et surtout le tourisme y a explosé. Des dizaines de milliers d'Indiens des plaines viennent découvrir chaque année cette splendide région montagneuse à la population bouddhiste et décrite dans les prospectus comme le Petit Tibet. Le nombre de touristes a doublé en 5 ans et tous les étés, la population de Leh est multipliée par 10. Mais comment accueillir cette foule en plein milieu d'un désert sans affecter son écologie fragile, ni épuiser davantage ses réserves en eau ? Le défi est énorme. Le Grand Dragon à la sortie de Leh est le plus grand hôtel de la ville. 48 chambres, dont 3 grandes suites et une nouvelle aile en construction. Dans les chambres de cet hôtel de luxe, on essaye de sensibiliser les clients au manque en eau et de mettre en place certaines procédures d'économie.
Ici, dans la salle de bain, nous offrons aux clients une alternative. C'est expliqué ici. Pour économiser de l'eau et éviter de polluer les lacs et rivières avec des détergents, vous pouvez pendre votre serviette ici si vous voulez la réutiliser. Nous la changeons seulement si elle se trouve par terre. Du reste, tous les produits de bain que nous utilisons sont biodégradables. Nous avons aussi installé une usine de retraitement des eaux usées pour l'hôtel. L'eau est donc retraitée et nous l'utilisons ensuite pour arroser les plantes. Ou si nous la rejetons directement, elle est très propre.
Il y a cependant très peu de contrôle sur la source de cette eau et cet hôtel va donc la chercher dans les sous-sols. Une solution qui inquiète le responsable des réservations du Grand Dragon, Abdul Masjid, qui lui a grandi au Ladakh.
La plupart des hôtels du Ladakh creusent pour chercher l'eau dans la nappe phréatique, même les plus petits hôtels. Mais comment dire, ce n'est pas juste. Dans 20 ou 30 ans, cette source d'eau va peut-être s'épuiser. Mais personne ne fait attention. Tout le monde veut seulement faire de l'argent. Les clients qui viennent ici ont beaucoup d'attentes et c'est difficile de s'y opposer. Nous essayons de leur parler de la particularité géographique de la région pour qu'ils comprennent. Mais je pense que chacun doit user de sa propre sagesse pour ces questions-là. Parfois, quand je marche vers l'hôtel, je vois des gens qui gâchent de l'eau. Et je leur dis, mais vous ne devez pas gâcher cette eau, elle est précieuse, c'est la vie.
Une grande partie du Ladakh ne reçoit qu'entre 100 et 150 mm de précipitations par an, soit 5 fois moins que des villes proches du Sahel comme Niamey ou N'Djamena, et autant qu'en plein milieu du désert d'Arabie Saoudite. Les habitants ont traditionnellement adapté leur mode de vie à cette extrême aridité en ne se lavant qu'avec un seau ou en utilisant des toilettes sèches. Mais avec l'urbanisation et l'uniformisation des modes de vie à l'occidental, eh bien ces pratiques disparaissent. Et cela alarme Lobsang Tsultim, le directeur du Ladakh Ecological and Development Group, appelé le LEDEC.
Nous avons réalisé un sondage auprès de 60 hôtels, maisons d'hôtes ou de particuliers et nous avons découvert qu'aucun d'entre eux n'a mis en place de mesures efficaces pour économiser de l'eau. Tout le monde utilise l'eau sans retenue pour se laver, faire la lessive,
Qu'est-ce qui pourrait être fait pour limiter cette consommation? Si aujourd'hui quelqu'un veut ouvrir un hôtel respectueux de l'environnement, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire?
La première chose à faire est d'adopter des toilettes sèches traditionnelles, car ce sont les plus respectueuses de l'environnement. Elles n'ont quasiment pas besoin d'eau et en plus, les déchets fournissent énormément d'engrais pour la terre. C'est la solution idéale, car les toilettes à chasse d'eau sont les plus consommatrices, entre 5 et 7 litres d'eau à chaque fois. Mais c'est un changement difficile. Nous avons ouvert une guest house à la sortie de Leh, qui comprend des toilettes sèches propres et pratiques. Mais nous avons du mal à y attirer des touristes.
Le Ladakh n'est pas la seule zone montagneuse à subir de plein fouet ce réchauffement climatique. Les neiges des principaux sommets du monde fondent de plus en plus vite sous les yeux impuissants des populations qui en dépendent. Pour Nicolas Hulot, le représentant de la présidence française pour la protection de la planète, ces changements représentent une alerte évidente et un appel à réagir.
Un degré, chez nous, ça semble insignifiant. Là-bas, ça rend des conditions de vie qui sont déjà aléatoires, particulièrement difficiles. Ce sont des marqueurs. Les régressions des glaciers, la disparition de neige éternelle dans certains sommets, etc. Il n'y a pas besoin parfois des travaux du GIEC pour voir la lecture des changements climatiques. Prenez les neiges du Kilimandjaro ou du Rwenzori, on voit bien que ces neiges sont en train de disparaître. Il en est des gens du Ladakh comme des gens du sud du Tchad ou de ces pays-là. C'est que ça change la vie au quotidien, c'est-à-dire l'accès à l'eau qui était déjà compliqué devient plus compliqué. L'autre jour, je rencontrais une femme Peul qui m'expliquait que maintenant elle est obligée d'abandonner ses enfants pendant 3-4 jours pour aller chercher de l'eau dans le sud du Tchad. C'est les populations des hauts plateaux de Madagascar qui avant faisaient 3 récoltes de riz et qui maintenant n'en font plus qu'une. Ça paraît totalement insignifiant, mais pour ces gens-là, c'est vital. Voilà. Et l'adaptation, elle est très difficile parce que de tout temps, les changements climatiques, que ce soit pour la biodiversité ou pour les hommes, c'est fait sur une longue échelle de temps. Donc les hommes s'adaptaient soit dans leurs pratiques agricoles, soit ils se déplaçaient. Mais aujourd'hui, le déplacement est la seule issue, sauf qu'on est dans un monde qui n'est plus nomade, on est dans un monde qui est sédentaire, et donc ça occasionne évidemment des sources de conflits, puisque dès lors que les gens se déplacent, ils rentrent en compétition. Donc voilà, c'est des effets en cascade.
Le Ladakh, frappé de plein fouet par le réchauffement climatique, c'était un grand reportage de Sébastien Farsi, réalisation Souhel Kedir.
Speeds are some balls, can't say no space.
Sébastien Farcy, bonjour.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
Vous nous décrivez au début de ce reportage des barrages de rétention d'eau artificielle créés pour contrer l'effet de la fonte des glaciers. Ces barrages sont-ils efficaces ?
Si l'on en croit les témoignages des agriculteurs que j'ai interrogés en aval de cette montagne dans ce village d'Igou, eh bien ces glaciers artificiels leur ont offert une plus grande sécurité. Ils sont maintenant quasiment certains d'avoir de l'eau au début du printemps, à un moment où il est en effet crucial de pouvoir irriguer ces champs. Car il faut dire qu'à cette altitude de plus de 4000 mètres, eh bien il est possible de faire pousser des aliments pendant seulement 3 ou 4 mois de l'année, après quoi il fait bien trop froid pour cela. Bien sûr, ces glaciers artificiels exigent de l'entretien. Ils sont formés de blocs de pierre imbriqués les unes dans les autres et doivent donc être réajustés tous les ans par des villageois, ce qui est un autre défi.
Des barrages qui ne sont pas assez solides, Sébastien, pour résister aux intempéries les plus importantes.
En effet, 12 grands glaciers artificiels de la sorte ont été construits depuis près de 20 ans dans les montagnes du Ladakh, mais 4 ont été détruits par les pluies torrentielles de 2010, des intempéries inédites depuis 70 ans et pendant lesquelles sont tombés en une nuit sur Leh et sa région l'équivalent de 6 mois de précipitations, ce qui a entraîné ensuite de terribles inondations et la mort de près de 200 personnes. Cet événement a offert un autre visage à ce changement climatique et a montré l'irrégularité et l'intensité de ces phénomènes. Les pluies arrivent maintenant à des moments inhabituels et avec une force exceptionnelle, ce qui n'est même pas utile, voire destructeur pour l'agriculture.
Et ce genre de phénomène risque malheureusement de se reproduire dans les prochaines années en Inde.
Oui, car l'Inde devrait être le 13e pays le plus fortement touché par le changement climatique. Dans la vallée du Gange, par exemple, qui est l'une des régions agricoles les plus fertiles et les plus peuplées du monde, habitée par 430 millions de personnes, on s'attend à voir la température augmenter de 1 à 2 degrés et les précipitations s'accroître de 13 à 17% d'ici à 2100. Cela s'accompagnera de manière paradoxale de plus longues périodes de sécheresse, ce qui montre encore une fois le renforcement des phénomènes climatiques extrêmes. Tout cela aura des effets néfastes sur l'agriculture, bien sûr. Sur les côtes indiennes, cette fois, où vivent 200 millions de personnes, eh bien ce sont les cyclones qui devraient se renforcer. Mais c'est surtout l'élévation du niveau des eaux qui inquiète ici. La mer monte déjà d'un millimètre par an au Kerala, et si cela se réplique aux autres côtes du sous-continent et que les mers s'élèvent ainsi d'un mètre d'ici à la fin du siècle, ce sont 7 millions de personnes qui perdront leur maison en Inde et devront migrer, devenant ce qui sera de plus en plus commun d'appeler des réfugiés climatiques.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI en Inde, envoyé spécial au Ladakh, merci d'avoir été avec nous. Votre grand reportage sur le réchauffement climatique qui touche aussi cette région montagneuse de l'Inde, on peut le retrouver sur notre site internet sur rfi.fr.
Ngai nghe mau si si kyo ni, lita.